Chapitre 10. Séduction, le voyage. Les préparatifs du départ des gendarmes avaient jeté la confusion dans le bourg. Leur départ fit succéder le plus profond silence au bruit des armes et des voix. Remy laissa ce bruit s'éteindre peu à peu et se perdre tout à fait. Puis, lorsqu'il crut la maison complètement déserte, il descendit dans la salle basse pour s'occuper de son départ et de celui de Diane. Mais en poussant la porte de cette salle, il fut bien surpris de voir un homme assis près du feu, le visage tourné de son côté. Cet homme guettait évidemment la sortie de Remy, quoiqu'en l'apercevant, il eût pris l'air de la plus profonde insouciance. Remy s'approcha, selon son habitude, avec une démarche lente et brisée, en découvrant son front chauve et pareil à celui d'un vieillard accablé d'années. Celui vers lequel il s'approchait avait la lumière derrière lui, de sorte que Remy ne put distinguer ses traits. « Pardon, monsieur, dit-il, je me croyais seul ou presque seul ici. » « Moi aussi, répondit l'interlocuteur, mais je vois avec plaisir que j'aurai des compagnons. » « Oh, de tristes compagnons, monsieur, se hâta de dire Remy, car excepté un jeune homme malade que je ramène en France. »« Ah, fit tout à coup Aurilly, en affectant toute la bonhomie d'un bourgeois compatissant, je sais ce que vous voulez dire. »« Vraiment ?» demanda Remy. « Oui, vous voulez parler de la jeune dame. »« De quelle jeune dame ?» s'écria Remy sur la défensive. « Là, là, ne vous fâchez point, mon bon ami, répondit Aurilly. Je suis l'intendant de la maison de Joyeuse. J'ai rejoint mon jeune maître par ordre de son frère, et à son départ, le comte m'a recommandé une jeune dame et un vieux serviteur qui ont l'intention de retourner en France après l'avoir suivi en Flandre. » Cet homme parlait ainsi en s'approchant de Remy avec un visage souriant et affectueux. Il s'était placé dans son mouvement au milieu du rayon de la lampe en sorte que toute la clarté l'illuminait. Remy alors put le voir. Mais au lieu de s'avancer de son côté vers son interlocuteur, Remy fit un pas en arrière et un sentiment semblable à celui de l'horreur se peignit un instant sur son visage mutilé. « Vous ne répondez pas, on dirait que je vous fais peur, » demanda Aurilly de son visage le plus souriant. « Monsieur, répondit Remy en affectant une voix cassée, pardonnez à un pauvre vieillard que ses malheurs et ses blessures ont rendu timide et défiant. »« Raison de plus, mon ami, répondit Aurilly, pour que vous acceptiez le secours et l'appui d'un honnête compagnon. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens de la part d'un maître qui doit vous inspirer confiance. »« Assurément, monsieur. » Et Remy fit un pas en arrière. « Vous me quittez ? Je vais consulter ma maîtresse, je ne puis rien prendre sur moi, vous comprenez ?»« Oh, c'est naturel, mais permettez que je me présente moi-même, je lui expliquerai ma mission dans tous ses détails. »« Non, non, merci, madame dort peut-être encore et son sommeil m'est sacré. »« Comme vous voudrez, d'ailleurs je n'ai plus rien à vous dire, sinon ce que mon maître m'a chargé de vous communiquer. »« À moi ? À vous et à la jeune dame ?» « Votre maître, monsieur le comte du Bouchage, n'est-ce pas ? Lui-même. Merci, monsieur. » Lorsqu'il eut refermé la porte, toutes les apparences du vieillard, excepté le front chauve et le visage ridé, disparurent à l'instant même, et il monta l'escalier avec une telle précipitation et une vigueur si extraordinaire que l'on n'eût pas donné 25 ans à ce vieillard qui, un instant auparavant, en paraissait 60. « Madame, madame !» s'écria Remy d'une voix altérée dès qu'il aperçut Diane. « Eh bien, qu'y a-t-il encore, Remy ? Le duc n'est-il point parti ?»« Si fait, madame, mais il y a ici un démon mille fois pire, mille fois plus à craindre encore que lui, un démon sur lequel tous les jours, depuis 6 ans, j'ai appelé la vengeance du ciel, comme vous le faisiez pour son maître, et cela comme vous le faisiez aussi en attendant la mienne. »«
Aurilly, peut-être ? » demanda Diane.
Aurilly lui-même, l'infâme est là, en bas, oublié comme un serpent hors du nid par son infernal complice.
Oublié, dit Uremio, tu te trompes. Toi qui connais le duc, tu sais bien qu'il ne laisse point au hasard le soin de faire le mal, quand ce mal, il peut le faire lui-même. Non, non, Remy, Aurilly n'est point oublié ici, il y est laissé, et laissé pour un dessein quelconque, crois-moi. Oh, sur lui, madame, je croirai tout ce que vous voudrez.
Me connaît-il?
Je ne crois pas.
Et t'a-t-il reconnu?
Oh, moi, madame, répondit Remy avec un triste sourire, moi, l'on ne me reconnaît pas.
Mais il m'a deviné, peut-être.
Non, car il a demandé à vous voir.
Remy, je te dis que s'il ne m'a point reconnu, il me soupçonne.
En ce cas, rien de plus simple, dit Remy d'un air sombre, et je remercie Dieu de nous tracer si franchement notre route. Le bourg est désert, l'infâme est seul, comme je suis seul. J'ai vu un poignard à sa ceinture, j'ai un couteau à la mienne.
Un moment, Remy, un moment, dit Diane, je ne vous dispute pas la vie de ce misérable, mais avant de le tuer, il faut savoir ce qu'il nous veut, et si, dans la situation où nous sommes, il n'y a pas moyen d'utiliser le mal qu'il veut nous faire. Comment s'est-il présenté à vous, Remy?
Comme l'intendant de monsieur du bouchage, madame.
Mais tu vois bien, il ment. Donc il a un intérêt à mentir. Sachons ce qu'il veut, tout en lui cachant notre volonté à nous.
J'agirai selon vos ordres, madame.
Pour le moment, que demande-t-il?
À vous accompagner.
En quelle qualité?
En qualité d'intendant du comte.
Dis-lui que j'accepte.
Oh, madame! Ajoute que je suis sur le point de passer en Angleterre, où j'ai des parents, et que cependant j'hésite,
fais-moi comme lui. Pour vaincre Remy, il faudra au moins combattre à armes égales.
Mais il vous verra.
Et mon masque? D'ailleurs, je soupçonne qu'il me connaît, Remy.
Alors s'il vous connaît, il vous tend un piège.
Le moyen de s'en garantir est d'avoir l'air d'y tomber.
Cependant,
voyons, que crains-tu? Connais-tu quelque chose de pire que la mort?
Non.
Eh bien, n'es-tu donc plus décidé à mourir pour l'accomplissement de notre vœu?
Si fait, mais non pas à mourir sans vengeance.
Remy, Remy, dit Diane, avec un regard brillant d'une exaltation sauvage. Nous nous vengerons, sois tranquille, toi du valet, moi et du maître.
Eh bien, soit, madame, ces choses dites.
Va, mon ami, va.
Et Remy descendit, mais hésitant encore. Le brave jeune homme avait, à la vue d'Aurilly, ressenti malgré lui ce frissonnement nerveux, plein de sombres terreurs, que l'on ressent à la vue des reptiles. Il voulait tuer parce qu'il avait eu peur. Mais cependant, au fur et à mesure qu'il descendait, la résolution rentrait dans cette âme si fortement trempée, et en rouvrant la porte, il était résolu, malgré l'avis de Diane, à interroger Aurilly, à le confondre, et s'il trouvait en lui les mauvaises intentions qu'il lui soupçonnait, à le poignarder sur place. C'est ainsi que Remy entendait la diplomatie. Aurilly l'attendait avec impatience, il avait ouvert la fenêtre afin de garder d'un seul coup d'œil toutes les issues. Remy vint à lui, armé d'une résolution inébranlable. Aussi ses paroles furent-elles douces et calmes. « Monsieur, dit-il, ma maîtresse ne peut accepter ce que vous lui proposez. »«
Et pourquoi cela ?»«
Parce que vous n'êtes point l'intendant de monsieur du bouchage. »
Aurilly pâlit.
« Mais qui vous dit cela, monsieur ? » demanda-t-il.
« Rien de plus simple. Monsieur du bouchage m'a quitté en me recommandant la personne que j'accompagne, et monsieur du bouchage, en me quittant, ne m'a pas dit un mot de vous.
Mais il m'a vu seulement après vous avoir quitté. »
« Mensonge, monsieur, mensonge !»
Aurilly se redressa. L'aspect de Remy lui donnait toutes les apparences d'un vieillard.
« Vous le prenez sur un singulier ton, brave homme, » dit-il en fronçant le sourcil.
« Prenez garde, vous êtes vieux, je suis jeune. Vous êtes faible, je suis fort. »
Remy sourit, mais ne répondit point.
« Si je voulais du mal à vous ou à votre maîtresse, » continua Aurilly, « je n'aurais que la main à lever. »
« Oh, fit Remy, peut-être me trompais-je, et est-ce du bien que vous lui voulez ?»«
Sans doute. »
« Expliquez-moi ce que vous désirez, alors. »«
Mon ami, dit Aurilly, je désire faire votre fortune d'un seul coup si vous me servez. »«
Et si je ne vous sers pas ?»«
En ce cas-là, et puisque vous me parlez franchement, je vous répondrai avec une pareille franchise. En ce cas, je désire vous tuer.
Me tuer? Ah, fit Remy, avec un sombre sourire.
Oui, j'ai plein pouvoir pour cela.
Remy respira.
Mais pour que je vous serve, dit-il, faut-il au moins que je connaisse vos projets?
Les voici. Vous avez deviné juste, mon brave homme, je ne suis point au comte du bouchage.
Ah, et à qui êtes-vous?
Je suis à un plus puissant seigneur.
Faites-y attention, vous allez mentir encore.
Et pourquoi cela?
Au-dessus de la maison de Joyeuse, je ne vois pas beaucoup de maisons.
Pas même la maison de France.
Oh, oh, fit Remy.
Et voilà comment elle paye, ajouta Aurilly, en glissant un des rouleaux d'or du duc d'Anjou dans la main de Remy.
Remy tressaillit au contact de cette main et fit un pas en arrière.
Vous êtes au roi? Demanda-t-il avec une naïveté qui eût fait honneur même à un homme plus rusé que lui.
Non, mais à son frère, monsieur le duc d'Anjou.
Ah, très bien, je suis le très humble serviteur de monsieur le duc.
À merveille. Mais après?
Comment après?
Oui, que désire monseigneur?
Monseigneur, très cher, dit Aurilly en s'approchant de Remy et en essayant pour la seconde fois de lui glisser le rouleau dans la main, monseigneur est amoureux de votre maîtresse.
Il la connaît donc?
Il l'a vue?
Il l'a vue, s'écria Remy, dont la main crispée s'appuya sur le manche de son couteau.
Et quand cela l'a-t-il vue?
Ce soir.
Impossible, ma maîtresse n'a pas quitté sa chambre.
Eh bien, voilà justement, le prince a agi comme un véritable écolier, preuve qu'il est véritablement amoureux.
Comment a-t-il agi? Voyons, dites.
Il a pris une échelle et a grimpé au balcon.
Ah, fit Remy, en comprimant les battements tumultueux de son cœur.
Ah, voilà comment il a agi.
Il paraît qu'elle est fort belle, ajouta Aurilly.
Vous ne l'avez donc pas vue, vous?
Non, mais d'après ce que monseigneur m'a dit, je brûle de la voir, ne fût-ce que pour juger de l'exagération que l'amour apporte dans un esprit sensé.
Allons donc, c'est convenu. Vous êtes à nous?
Et pour la troisième fois, Aurilly essaya de faire accepter l'or à Remy.
Certainement, je suis à vous, dit Remy, en repoussant la main d'Aurilly. Mais encore faut-il que je sache quel est mon rôle dans les événements que vous préparez.
Hein, répondez-moi d'abord, la dame de là-haut est-elle la maîtresse de monsieur du bouchage ou de son frère?
Le sang monta au visage de Remy.
Ni de l'un ni de l'autre, dit-il avec contrainte.
La dame de là-haut n'a pas d'amant.
Pas d'amant? Mais alors c'est un morceau de roi, une femme qui n'a pas d'amant.
Morbleu, monseigneur, nous avons trouvé la pierre philosophale.
Donc, reprit Remy, monseigneur le duc d'Anjou est amoureux de ma maîtresse?
Oui.
Et que veut-il?
Il veut la voir à Château-Thierry, où il se rend à marche forcée.
Voilà sur mon âme une passion venue bien vite.
Ah, c'est comme cela que les passions viennent à monseigneur.
Je ne vois à cela qu'un inconvénient, dit Remy.
Lequel?
C'est que ma maîtresse va s'embarquer pour l'Angleterre.
Ah, diable, voilà en quoi justement vous pouvez m'être utile.
Décidez-la.
À quoi?
À prendre la route opposée.
Vous ne connaissez pas ma maîtresse, monsieur.
C'est une femme qui tient à ses idées. D'ailleurs, ce n'est pas le tout qu'elle aille en France au lieu d'aller à Londres. Une fois à Château-Thierry, croyez-vous qu'elle cède au désir du prince?
Pourquoi pas?
Elle n'aime pas le duc d'Anjou.
Bah, on aime toujours un prince de sang.
Mais comment, monseigneur le duc d'Anjou, s'il soupçonne ma maîtresse d'aimer monsieur le comte du Bouchage ou monsieur le duc de Joyeuse, a-t-il eu l'idée de l'enlever à celui qu'elle aime?
Bon homme, dit Aurilly, tu as des idées triviales, et nous aurons de la peine à nous entendre.
À ce que je vois, aussi, je ne discuterai pas. J'ai préféré la douceur à la violence, et maintenant, si tu me forces à changer de conduite, eh bien, soit, j'en changerai.
Que ferez-vous?
Je te l'ai dit, j'ai plein pouvoir du prince. Je te tuerai dans quelque coin, et j'enlèverai la dame.
Vous croyez à l'impunité? Je crois à tout ce que mon maître me dit de croire. Voyons, décideras-tu ta maîtresse à venir en France ? J'y tâcherai, mais je ne puis répondre de rien. Et quand aurai-je la réponse ? Le temps de monter chez elle, de la consulter. C'est bien, monte, je t'attends. J'obéis, monsieur. Un dernier mot, bonhomme. Tu sais que je tiens dans ma main ta fortune et ta vie. Je le sais. Cela suffit. Va, je m'occuperai des chevaux pendant ce temps. Ne voitez pas trop. Ah, je suis sûr de la réponse. Est-ce que les princes trouvent des cruelles ? Il me semblait que cela arrivait quelquefois. Oui, dit Oury, mais c'est chose rare. Allez. Et tandis que Remy remontait, Aurilly, comme s'il eût été certain de l'accomplissement de ses espérances, se dirigeait réellement vers l'écurie. « Eh bien, demanda Diane en apercevant Remy, eh bien, madame, le duc vous a vu. Et il vous aime. Le duc m'a vu. Le duc m'aime, s'écria Diane. Mais tu es en délire, Remy. Non, je vous dis ce qu'il m'a dit. Et qui t'a dit cela ? Cet homme, cet Aurilly, cet infâme. Mais s'il m'a vu, il m'a reconnu, alors. Si le duc vous eût reconnu, croyez-vous qu'Aurilly oserait se présenter devant vous et vous parler d'amour au nom du prince ? Non, le duc ne vous a pas reconnu. Ah, tu as raison, mille fois raison, Remy. Tant de choses ont passé depuis 6 ans dans cet esprit infernal qu'il m'a oublié. Suivons cet homme, Remy. Oui, mais cet homme vous reconnaîtra, lui. Pourquoi veux-tu qu'il ait plus de mémoire que son maître ? Parce que son intérêt à lui est de se souvenir, tandis que l'intérêt du prince est d'oublier, que le duc oublie, lui, le sinistre débauché, l'aveugle, le blasé, l'assassin de ses amours, cela se conçoit. Lui, s'il n'oubliait pas, comment pourrait-il vivre ? Mais Aurilly n'aura pas oublié, lui. S'il voit votre visage, il croira voir une ombre vengeresse et vous dénoncera. Remy, je croyais t'avoir dit que j'avais un masque. Je croyais que tu m'avais dit que tu avais un couteau. C'est vrai, madame, dit Remy, et je commence à croire que Dieu est d'intelligence avec nous pour punir les méchants. Alors, appelant Aurilly du haut de l'escalier, monsieur, dit-il, monsieur. Eh bien, demanda Aurilly. Eh bien, ma maîtresse remercie monsieur le comte du Bouchage d'avoir pourvu à sa sûreté, et elle accepte avec reconnaissance votre offre obligeante. C'est bien, dit Aurilly. Prévenez-la que les chevaux sont prêts. Venez, madame, venez, dit Remy, en offrant son bras à Diane. Aurilly attendait au bas de l'escalier, lanterne en main, avide qu'il était de voir le visage de l'inconnu. « Diable, murmura-t-il, elle a un masque. Oh, mais d'ici à Château-Thierry, les cordons de soie seront usés ou coupés. » On se mit en route. Aurilly affectait avec Remy le ton de la plus parfaite égalité et avec Diane les airs du plus profond respect. Mais il était facile pour Remy de voir que ces airs de respect étaient intéressés. En effet, tenir l'étrier d'une femme quand elle monte à cheval ou qu'elle en descend, veiller sur chacun de ses mouvements avec sollicitude et ne laisser échapper jamais une occasion de ramasser son gant ou d'agrafer son manteau, c'est le rôle d'un amant, d'un serviteur ou d'un curieux. En touchant le gant, Aurilly voyait la main. En agrafant le manteau, il regardait sous le masque. En tenant l'étrier, il provoquait un hasard qui lui fit entrevoir ce visage que le prince, dans ses souvenirs confus, n'avait point reconnu, mais que lui, Aurilly, avec sa mémoire exacte, comptait bien reconnaître. Mais le musicien avait affaire à forte partie. Remy réclama son service auprès de sa compagne et se montra jaloux des prévenances d'Aurilly. Diane elle-même, sans paraître soupçonner les causes de cette bienveillance, prit parti pour celui qu'Aurilly regardait comme un vieux serviteur et voulait soulager d'une partie de sa peine, et elle pria Aurilly de laisser faire à Remy tout seul ce qui regardait Remy. Aurilly en fut réduit pendant les longues marches à espérer l'ombre et la pluie, pendant les haltes à désirer les repas. Pourtant il fut trompé dans son attente, pluie et soleil n'y faisaient rien, et le masque restait sur le visage quand au repas ils étaient pris par la jeune femme dans une chambre séparée. Aurilly comprit que s'il ne reconnaissait pas, il était reconnu. Il essaya de voir par les serrures, mais la dame tournait constamment le dos aux portes. Il essaya de voir par les fenêtres, mais il trouva devant les fenêtres d'épais rideaux, ou, à défaut de rideaux, les manteaux des voyageurs. Ni question, ni tentative de corruption ne réussirent sur Remi. Le serviteur annonçait que telle était la volonté de sa maîtresse et, par conséquent, la sienne. « Mais ces précautions sont-elles donc prises pour moi seul ?» demandait Aurilly. « Non, pour tout le monde. » « Mais enfin, monsieur le duc d'Anjou l'a vu, alors elle ne se cachait pas. »« Hasard, pur hasard, » répondit Remi, « et c'est justement parce que, malgré elle, ma maîtresse a été vue par monsieur le duc d'Anjou qu'elle prend des précautions pour n'être plus vue par personne. » Cependant, les jours s'écoulaient. On approchait du terme, et grâce aux précautions de Remi et de sa maîtresse, la curiosité d'Aurilly avait été mise en défaut. Déjà la Picardie apparaissait au regard des voyageurs. Aurilly, qui depuis 3 ou 4 jours essayait de tout, de la bonne mine, de la bouderie, des petits soins et presque des violences, commençait à perdre patience, et les mauvais instincts de sa nature prenaient peu à peu le dessus. On eût dit qu'il comprenait que sous le voile de cette femme était caché un secret mortel. Un jour, il demeura un peu en arrière avec Remi et renouvela sur lui ses tentatives de séduction, que Remi repoussa, comme d'habitude. « Enfin, » dit Aurilly, « il faudra cependant bien qu'un jour ou l'autre je voie ta maîtresse. »« Sans doute, » dit Remi, « mais ce sera au jour qu'elle voudra, et non au jour que vous voudrez. »« Et cependant, si j'employais la force, » dit Aurilly, un éclair qu'il ne put retenir jaillit des yeux de Remi. « Essayez, » dit-il. Aurilly vit l'éclair, il comprit ce qui vivait d'énergie dans celui qu'il prenait pour un vieillard. Il se mit à rire. « Que je suis fou, » dit-il, « et que m'importe qui elle est. C'est bien la même, n'est-ce pas, que monsieur le duc d'Anjou a vu ?»« Certes, et qu'il me dit de lui amener à Château-Thierry. » »« Oui. » « Eh bien, c'est tout ce qu'il me faut, ce n'est pas moi qui suis amoureux d'elle, c'est mon seigneur, et pourvu que vous ne cherchiez pas à fuir, à m'échapper. »« Nous en avons l'air, » dit Remi. « Non, nous en avons si peu l'air, et c'est si peu notre intention, que, n'y fussiez-vous pas, nous continuerions notre route pour Château-Thierry. Si le duc désire nous voir, nous désirons le voir aussi, nous. »« Alors, » dit Aurilly, « cela tombe à merveille. » Puis, comme s'il eût voulu s'assurer du désir réel qu'avaient Remi et sa compagne de ne pas changer de chemin, « Votre maîtresse veut-elle s'arrêter ici quelques instants » dit-il. Il montrait une espèce d'hôtellerie sur la route. « Vous savez, lui dit Remi, que ma maîtresse ne s'arrête que dans les villes. »« Je l'avais vue, dit Aurilly, mais je ne l'avais pas remarqué. C'est ainsi. Eh bien, moi qui n'ai pas fait de vœux, je m'arrête un instant. Continuez votre route, je vous rejoins. » Et Aurilly indiqua le chemin à Remi, descendit de cheval et s'approcha de l'hôte qui vint au-devant de lui avec de grand respect et comme s'il le connaissait. Remi rejoignit Diane. « Que vous disait-il ? » demanda la jeune femme. « Il exprimait son désir ordinaire. »« Celui de me voir ?»« Oui. » Diane sourit sous son masque. « Prenez garde, » dit Remi, « il est furieux. » « Il ne me verra pas, je ne le veux pas, et c'est te dire qu'il ne pourra rien. »« Mais une fois que vous serez à Château-Thierry, ne faudra-t-il point qu'il vous voie à visage découvert ?»« Qu'importe si la découverte arrive trop tard pour eux. D'ailleurs, le maître ne m'a point reconnu. »« Oui, mais le valet vous reconnaîtra. »« Tu vois que jusqu'à présent, ni ma voix ni ma démarche ne l'ont frappé. » « N'importe, madame, » dit Remi, « tous ces mystères qui existent depuis 8 jours pour Aurilly n'avaient point existé pour le prince, ils n'avaient point excité sa curiosité, point éveillé ses souvenirs, au lieu que, depuis 8 jours, Aurilly cherche, calcule, suppute. Votre vue frappera une mémoire éveillée sur tous les points, il vous reconnaîtra s'il ne vous a pas reconnu. » En ce moment, ils furent interrompus par Aurilly, qui avait pris un chemin de traverse et qui, les ayant suivis sans les perdre de vue, apparaissait tout à coup dans l'espoir de saisir quelques mots de leur conversation. Le silence soudain qui accueillit son arrivée lui prouva significativement qu'il gênait. il se contenta donc de suivre par derrière, comme il faisait quelquefois. Dès ce moment, le projet d'Ourilly fut arrêté. Il se défiait réellement de quelque chose, comme l'avait dit Remy, seulement il se défiait instinctivement, car pas un instant son esprit, flottant de conjecture en conjecture, ne s'était arrêté à la réalité. Il ne pouvait s'expliquer qu'on lui cachât avec tant d'acharnement ce visage que tôt ou tard il devait voir. Pour mieux conduire son projet à sa fin, il sembla de ce moment y avoir complètement renoncé, et se montra le plus commode et le plus joyeux compagnon possible durant le reste de la journée. Remy ne remarqua point ce changement sans inquiétude. On arriva à une ville et l'on y coucha comme d'habitude. Le lendemain, sous prétexte que la traite était longue, on partit avec le jour. À midi, il fallut s'arrêter pour laisser reposer les chevaux. À 2 heures, on se remit en route, on marcha encore jusque 4. Une grande forêt se présentait dans le lointain. C'était celle de la Fère. Elle avait cet aspect sombre et mystérieux de nos forêts du Nord, mais cet aspect, si imposant pour les natures méridionales, à qui avant toute chose il faut la lumière du jour et la chaleur du soleil, était impuissant sur Remy et sur Diane, habitués aux bois profonds de l'Anjou et de la Sologne. Seulement, ils échangèrent un regard comme s'ils eussent compris tous deux que c'était là que les attendait cet événement qui, depuis le moment du départ, planait sur leur tête. On entra dans la forêt. Il pouvait être 6 heures du soir. Au bout d'une demi-heure de marche, le jour était sur son déclin. Un grand vent faisait tourbillonner les feuilles et les enlevait vers un étang immense, perdu dans les profondeurs des arbres, comme une autre mer morte, et qui côtoyait la route qui s'étendait devant les voyageurs. Depuis 2 heures, la pluie, qui tombait par torrents, avait détrempé le sol argileux. Diane, assez sûre de son cheval, et d'ailleurs assez insouciante de sa propre sûreté, laissait aller son cheval sans le soutenir. Ourilly marchait à droite, Remy à gauche. Ourilly était sur la lisière de l'étang, Remy sur le milieu du chemin. Aucune créature humaine n'apparaissait sous les sombres arceaux de verdure sur la longue courbe du chemin. On eût dit que la forêt était un de ces bois enchantés sous l'ombre desquels rien ne peut vivre, si l'on eût entendu parfois sortir de ces profondeurs le rauque hurlement des loups que réveillait l'approche de la nuit. Tout à coup, Diane sentit que la selle de son cheval, scellée comme d'habitude par Ourilly, vacillait et tournait. Elle appela Remy, qui sauta en bas du sien et se pencha pour redresser la courroie. En ce moment, Ourilly s'approcha de Diane occupée et du bout de son poignard coupa la ganse de soie qui retenait le masque. Avant qu'elle eût deviné le mouvement ou porté la main à son visage, Ourilly enleva le masque et se pencha vers elle qui, de son côté, se penchait vers lui. Les yeux de ces deux créatures s'étreignirent dans un regard terrible. Nul n'eût pu dire lequel était le plus pâle et lequel le plus menaçant. Ourilly sentit une sueur froide inonder son front, laissa tomber le masque et le stylet, et frappant ses deux mains avec angoisse en criant « Ciel et terre, la dame de Montsoreau !»« C'est un nom que tu ne répéteras plus !» s'écria Remy en saisissant Ourilly à la ceinture et en l'enlevant de son cheval. Tous deux roulèrent sur le chemin. Ourilly allongea la main pour ressaisir son poignard. « Non, Ourilly, non !» lui dit Remy, en se penchant sur lui et en lui appuyant le genou sur la poitrine. « Non, il faut demeurer ici !» Le dernier voile qui paraissait étendu sur le souvenir d'Ourilly sembla se déchirer. « Le Haudouin ! » s'écria-t-il. « Je suis mort !»« Ce n'est pas encore vrai !» dit Remy, en étendant sa main sur la bouche du misérable qui se débattait sous lui. « Mais tout à l'heure !» Et de sa main droite, il tira son couteau de sa gaine. « Maintenant, dit-il, Ourilly, tu as raison, maintenant tu es bien mort. » Et l'acier disparut dans la gorge du musicien qui poussa un râle inarticulé. Diane, les yeux hagards, à demi tournés sur sa selle, appuyée au pommeau, frémissante mais impitoyable, n'avait point détourné la tête de ce terrible spectacle. Cependant, lorsqu'elle vit le sang jaillir le long de la lame, elle se renversa en arrière et tomba de son cheval, roide comme si elle était morte. Remy ne s'occupa point d'elle en ce terrible moment. Il fouilla Aurilly, lui enleva les deux rouleaux d'or, puis attacha une pierre à son cou et le précipita dans l'étang. La pluie continuait de tomber à flots. « Efface, ô mon Dieu, dit-il, efface la trace de ta justice, car elle a encore d'autres coupables à frapper. » Puis il se lava les mains dans l'eau sombre et dormante, prit dans ses bras Diane encore évanouie, la hissa sur son cheval et monta lui-même sur le sien en soutenant sa compagne. Le cheval d'Aurilly, effrayé par les hurlements des loups qui se rapprochaient comme si cette scène les eût appelés, disparut dans les bois. Lorsque Diane fut revenue à elle, les deux voyageurs, sans échanger une seule parole, continuèrent leur route vers Château-Thierry.